du Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine et Jean-Paul de Vels. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le pasteur Lionel Thébault de notre Église protestante de Chartres, qui va nous faire une méditation sur le livre d'Isaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 11.
Le texte du jour est magnifique. Comme beaucoup de textes du Premier Testament, il déborde de l'annonce de l'Évangile. Venez, vous qui avez soif. Est-ce que vous avez soif? Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, dit Jésus dans les Béatitudes de Matthieu. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, dit Jésus au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, dit Jésus au chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. Et puis, dernière citation, « Que celui qui a soif vienne. Celui qui veut de l'eau de la vie, qu'il la reçoive gratuitement », dit Jésus dans Apocalypse 22. Vous le voyez, les rédacteurs du Nouveau Testament se sont inspirés de ce passage d'Ésaïe pour parler de ce que Jésus a fait, pour évoquer ce que Jésus nous a montré. Dieu est la source qui renouvelle notre être. Il distribue gratuitement la vie vivante et vivifiante. Alors attention, hein. L'eau de la vie qui vient de Dieu, ce n'est pas de l'eau de vie. Il ne fait pas référence au schnapps alsacien ni au lambic breton, non, non. Il s'agit vraiment de cette vie sans cesse renouvelée qui coule dans le plus profond de notre être et qui nous permet de devenir plus humains et plus humaines. Plus humains et plus humaines que ce que nous sommes. Et pour trouver cette source, notre texte dit qu'il nous faut chercher Dieu. Chercher Dieu? Mais où chercher Dieu? Où est-il ce Dieu auquel nous croyons? Il y a des gens qui cherchent Dieu dans le ciel. Quand l'humanité croyait que le soleil tournait autour de la Terre, on croyait que l'univers se limitait à notre galaxie. On se disait que Dieu devait être au-delà. Nous avons observé que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Nous avons vu que l'univers est composé d'un nombre incalculable de galaxies et que la nôtre est toute petite. Alors Dieu se situe-t-il au-delà de notre galaxie ou encore au-delà de notre univers? Où est Dieu? Jésus aurait dit « Notre Père qui est aux cieux ». Dieu se trouve-t-il dans les cieux? Si je regarde le psaume 11 dit que Dieu a son trône dans les cieux. Et alors, je voudrais pas être trop affirmatif, mais j'imagine mal un trône géant, le trône de Dieu, en orbite autour d'une planète. Non, je suis obligé d'entendre que ce sont des images, des métaphores, et qu'en réalité, Dieu n'est pas à chercher dans le ciel. Il y a des gens qui cherchent Dieu dans les lieux sacrés. Et vous savez, ces lieux où l'on fabrique des objets, des statues, des statuettes, des fontaines, ou bien des lieux où l'on trouve des éléments sacrés comme des sources d'eau, des arbres, des roches. Et alors on distingue des espaces sacrés des espaces non sacrés et on imagine que Dieu ne se manifeste que dans les lieux sacrés. Or, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, la Bible a l'air de nous dire que, au fond, le seul lieu sacré, c'est notre cœur. Alors, évidemment, ce que la Bible appelle notre cœur, ce n'est pas cet organe vital qui propulse le sang dans l'ensemble de notre corps. Là aussi, c'est une image. Il s'agit de notre être intérieur, notre être profond. On n'adore pas mieux Dieu dans un temple, une église, qu'une forêt, ou que dans notre chambre. La qualité de notre adoration vient de l'intention de notre cœur et pas du lieu dans lequel nous décidons d'adorer. Alors oui, nous sommes plus sensibles à certains lieux, c'est vrai, car les atmosphères de ces lieux agissent sur nos émotions, ce qui peut faciliter notre adoration. Mais encore une fois, aucun lieu n'est sacré. Parce que Dieu n'est pas extérieur à nous-mêmes. Il est caché tout au fond de nous. Il est le fondement de l'être. Et c'est bien là qu'il nous faut le chercher pour le trouver. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur.
Non, point à nous, non, point à nous, Seigneur, mais à Oh,
mon cœur, est le lieu où Dieu peut jaillir. C'est pourquoi le proverbe 4, au verset 23 de la Bible, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Jésus dit en Matthieu 15 « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées, voilà ce qui le rend impur. » Ton cœur, mon cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime au fond de nous-mêmes, c'est là que tout se joue pour ta vie, pour ma vie. Dieu donc n'est pas une idole extérieure dont nous pouvons nous servir. Il n'est pas une entité que nous pouvons manipuler pour obtenir de lui ce que nous désirons. Nos prières ne sont pas des listes de courses que nous envoyons au Père Noël. Dieu, c'est tout autre chose. Dieu, c'est Yahvé. Yahvé, ce nom imprononçable pour un juif, nom qui signifie « je suis celui qui est » ou « je serai qui je serai ». Dieu, c'est l'être même, la vie, dans toute sa richesse. Et l'être, vous le savez, n'est pas situé à des années-lumière de nous-mêmes, il n'est pas inaccessible, il est plus près de nous que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi rien ne peut nous séparer de lui. Si nous étions séparés, nous ne pourrions tout simplement plus vivre. Les personnes qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec lui, qui ont marché sur ses routes, de ville en ville, ces personnes ont reconnu que Dieu, le Dieu de la vie, habitait en lui d'une manière extraordinaire. Dieu s'incarne dans nos vies humaines. Il nous appelle à le laisser jaillir de nous. Il nous appelle à vivre cette habitation, à être comme il est. Et Jésus a enseigné ce que ça signifie que d'être habité de Dieu. Il nous a montré l'exemple et il est allé jusqu'au bout de son appel pour que nous comprenions ce que veut dire vivre la vie divine. La présence de Dieu en nous ne nous appelle pas à nous couper de notre vie quotidienne. Elle ne nous appelle pas à nous séparer de nos semblables. Elle nous appelle à déployer notre humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Elle nous appelle à être bénédiction pour les autres. Elle nous appelle donc à partager ce que nous avons pour que l'autre puisse à son tour développer son humanité et trouver Dieu qui se cache en lui. Elle nous appelle à nous entraider et à prendre soin les uns des autres dans la liberté et dans l'amour. C'est ça. La vie de Dieu en nous nous appelle à aimer. Et c'est pourquoi Jésus n'accepte pas que ceux qui se sentent forts méprisent les faibles. C'est pourquoi il nous encourage à rester petits ou petites, à ne pas chercher à dominer les autres ou à se croire supérieurs. Quand nous voyons quelqu'un en difficulté, nous n'allons pas le charger, l'accuser, le mettre face à ses incapacités. Nous allons l'aider par des paroles encourageantes et des actes concrets. Car Dieu est présent dans chaque souffle vivant que vous croisez. En fait, j'ai lu quelque part que Dieu est un verbe qui a besoin d'être vécu. Et j'ai trouvé ça tellement beau, j'aime beaucoup cette phrase, que je vais le répéter. Dieu est un verbe qui a besoin d'être vécu. Se rendre compte de ça, c'est changer un peu notre manière de percevoir qui est Dieu. Ma grand-mère, faut que je vous parle un peu de ma grand-mère, elle me racontait que quand on lui faisait réciter le Notre Père, elle avait du mal avec le « donne-nous notre pain quotidien ». Elle disait « non, non, moi je veux pas du pain, je veux aussi du beurre, du saucisson, du fromage, parce que le pain tout seul, c'est pas très bon ». même si elle exprimait là quelque chose d'important. Je crois qu'elle avait tort. Je ne suis pas certain que Jésus demande à Dieu de le nourrir physiquement. Ça, c'est le boulot des hommes et des femmes de ce monde que de pourvoir aux besoins naturels des êtres humains. Jésus, là, demande à Dieu de nous nourrir par sa parole, par sa vie féconde en nous, par cet amour qui régénère et qui nous ressuscite chaque jour. Ma grand-mère avait une lecture littérale du pain, mais Dieu ne nous donne pas de saucisson. Dieu nous donne la vie. Et Jésus dit en Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » J'en déduis, moi, que Dieu ne nous dit pas comment le manipuler, par des prières ou par des gestes et des rituels magiques. Il nous dit que nous faisons partie de lui et que nous devons nous imbiber de cette source qu'il fait jaillir en nous. Parce que Dieu se rencontre dans la vie que nous vivons. Et je précise ici que Dieu se trouve en nous, que nous soyons ou non habités par la foi. Que nous suivions des rituels religieux ou non. Que nous en ayons conscience ou non. Que nous le sentions ou non. Dieu est là et chacun, chacune y a accès. Je me dis que là, je suis en train de dire quelque chose d'un peu compliqué, parce que d'une part, beaucoup de gens ne trouvent pas leur accès à Dieu, et puis parce que mes paroles ont un accent un peu mystique, j'en ai conscience. Mais il s'agit pour moi d'une mystique toute simple, Il n'y a pas d'œuvre à faire pour trouver Dieu en nous. Ça, c'est un des grands messages des réformateurs. Les exercices spirituels peuvent être utiles pour vous aider à vous concentrer, mais ils ne sont pas un passage obligé. C'est comme les lieux sacrés, ça peut vous stimuler, mais ils n'ont pas de valeur en soi. Il y a des personnes qui parviennent à bien se caler dans l'être sans pour autant avoir une activité que l'on qualifierait de religieuse ou de spirituelle. Et pourtant, parfois, ils y parviennent mieux que nous. Et puis, il ne faut surtout pas vous laisser envahir par la culpabilité si jamais vous ne sentez pas Dieu en vous. L'important n'est pas de sentir Dieu, même si ça fait du bien. L'important, c'est de savoir que Dieu vit là, à l'intérieur. C'est comme la respiration, vous n'avez pas toujours conscience de l'air qui entre et qui sort, et pourtant, ça se passe, c'est là. C'est un fait. Si Dieu est l'être, alors c'est en ayant le courage d'être que nous pouvons glorifier Dieu. Plus nous parviendrons à être pleinement nous-mêmes, plus Dieu sera visible dans nos vies. Ça veut dire être plus en accord avec qui nous sommes à l'intérieur, désolé pour les conventions, et ça veut dire être plus humain, plus humaine. Ça veut dire aussi aider les autres à être qui ils sont, qui elles sont. Ça veut dire renoncer le plus possible à paraître. Si Dieu est amour, alors c'est en nous aimant les uns les autres que nous pouvons glorifier Dieu. Plus nous donnons de l'amour et plus nous rendons Dieu visible dans nos vies. Parce que c'est dans l'amour que nous expérimentons Dieu. Alors, si vous avez soif, comme quelques-uns et quelques-unes l'ont dit tout à l'heure, si vous ressentez en vous-même le besoin d'avoir un être intérieur tout neuf, tout propre, un être intérieur guéri, recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Attendez, je reprends le texte, excusez-moi. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. C'est concret. Ça n'exige pas de vous que vous adhériez à un contenu dogmatique ou philosophique. Ça vous invite à entrer en relation, simplement. En cette nouvelle année, cherchons Dieu. Je nous invite à chercher Dieu, à mettre sa parole en pratique, à devenir ou essayer de devenir ce que Dieu désire que nous devenions. Laissons-nous devenir cette image de Dieu qu'il a inscrite en nous, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour notre vie et pour l'avenir de notre foi chrétienne. Amen.
Thank you.